La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être là pour ce nouveau numéro de la Compagnie des auteurs avec une programmation, Maïlys le disait aujourd'hui, bouleversée par l'annonce ce matin de la mort de l'écrivain américain Philip Roth. Nous vous proposons donc de réentendre une émission de décembre dernier qui reprenait le parcours biographique mais surtout littéraire de l'auteur de La Tâche, émission que nous devons à Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Genepin, Chloé Kaczmarek, Laurence Millet, Clément Noguier et Alexandre Dang. Alors c'est l'homme qui a disparu, mais l'écrivain avait déjà posé son stylo depuis plusieurs années, depuis 2011 exactement, et la publication de son roman Némésis. Enfin, il lui arrivait d'écrire encore, paraît-il, à la petite fille de 8 ans de l'une de ses amies avec qui il rédigeait une sorte de livre, mais c'était seulement pour le plaisir. Les dernières années de sa vie, Philip Roth les a employées à nager, à s'intéresser au baseball, à regarder des paysages, sans doute aussi à réfléchir à l'histoire de son pays, et peut-être rétrospectivement à son œuvre. Alors cette œuvre, on l'a beaucoup souligné, elle n'a pas été couronnée par le prix Nobel de littérature, sans doute parce que Roth était considéré comme politiquement trop incorrect et même misogyne par certains, accusations qui résistent cependant assez mal à la lecture attentive de ses textes. Peut-être aura-t-on confondu le point de vue du personnage avec celui de l'auteur. Nous vous proposons donc de réentendre aujourd'hui un entretien mené en décembre dernier avec le professeur à Paris 7, Philippe Jaworski. C'était quelques semaines après la sortie en Pléiade des œuvres de Philip Roth, dont il avait rédigé l'introduction. Bienvenue à tous, voici la Compagnie des auteurs. Aujourd'hui, pour parler de la sortie en Pléiade des œuvres presque complètes de Philip Roth, en réalité des romans et nouvelles parus entre 1959 et 1977, qui a paru en octobre dernier chez Gallimard, je suis en compagnie de Philippe Jaworski, professeur à Paris 7, qui en a rédigé la préface. Avec lui, nous allons revenir sur la personnalité et sur l'œuvre surtout de l'auteur de Portnoy et son complexe, ce livre dont voici pour commencer un extrait.
En matière de coups, il continuait à vivre dans un état qui ne s'est jamais démenti et n'a subi aucun raffinement sensible depuis qu'il avait 15 ans et ne pouvait se lever de son banc en classe sans cacher sa trique derrière son cahier à trois anneaux. Chaque fille qu'il voit s'avère, tenez-vous bien, pourvue entre les jambes d'un con véritable, stupéfiant, époustouflant. Il n'arrive pas à se débarrasser de l'idée fantastique que lorsque l'on regarde une fille, on regarde quelqu'un qui possède, c'est absolument garanti, un con. Et docteur, votre honneur, quel que soit votre titre, peu importe, semble-t-il, ce que se tape en fait ce pauvre minable, puisqu'il rêve déjà de la chatte de demain, alors qu'il est en train de tringler celle d'aujourd'hui. J'exagère? Cette façon de me noircir n'est-elle qu'un truc habile pour la ramener? Ou me vanter, peut-être? Cette insatisfaction, cette trique permanente, est-ce que je les ressens vraiment comme une affliction ou une performance? Les deux? Ou n'est-ce qu'un moyen d'évasion? Écoutez, au moins je ne me retrouve pas encore au début de la trentaine, bouclé dans un mariage avec une charmante créature dont le corps a cessé de présenter pour moi le moindre intérêt réel.
Un extrait de Portnoy et son complexe, lu ici par Guillaume Gallienne. Bonjour Philippe Jaworski.
Bonjour Mathieu Garrigou-Lagrange.
Alors j'espère que vous n'êtes pas trop fatigué puisque vous sortez de ce travail éprouvant qu'est la rédaction d'une préface pour les éditions de la Pléiade. Et oui, c'est éprouvant parce que, évidemment, il faut imaginer que dans plusieurs années, on va relire votre préface, comme nous on le fait ici à la Compagnie des auteurs sur des écrivains dont les œuvres complètes sont parues en Pléiade il y a bien longtemps. Et évidemment, il ne faut pas que cette préface soit démodée. Alors comment faites-vous, comment avez-vous fait pour vous projeter dans le futur et imaginer ce qu'on pourra bien avoir envie de savoir sur Philip Roth dans 20, 30, 40, 100 ans, pourquoi pas?
Écoutez, vous me faites beaucoup d'honneur en me prêtant cette capacité de me projeter dans l'avenir. À vrai dire, je crois que personne ne peut dire comment Philip Roth sera lu dans une ou deux ou trois générations d'ici. J'ai essayé d'évoquer deux ou trois aspects qui me semblaient particulièrement importants de cette œuvre très riche, très complexe, très variée. Alors, il y a plusieurs. On peut aborder Philip Roth de plusieurs façons. C'est comme beaucoup de d'autres écrivains américains, un merveilleux peintre de la société américaine. C'est un aspect auquel je crois tout lecteur est immédiatement sensible.
C'est peut-être ce qu'on voit le plus, c'est la partie vraiment émergée de l'iceberg.
Tout à fait, c'est la société américaine, les mœurs américaines, les couples, les familles, les carrières, les préjugés, les conformismes, la bien-pensance, etc. Ça, c'est un premier, c'est une première dimension de son œuvre. Il y en a une deuxième qui est la peinture de personnages. Roth est un grand biographe dans la tradition balzacienne, je crois. C'est-à-dire que c'est un romancier qui s'intéresse d'abord. C'est un romancier de personnages. Mmh. Il s'intéresse à la personne et il fait de merveilleux récits de vie. De vie dramatique, parce que ce sont des vies accidentées.
Oui. Qui commencent la pastorale américaine, par exemple.
Absolument, qui commencent avec de grandes espérances et qui, à un moment, se fracassent contre la réalité, contre le hasard, contre le sort, contre toutes sortes de choses. Et c'est bien souvent le récit de vies détruites. De vie brisée à un moment ou à un autre, on pourrait y revenir si vous le souhaitez. Donc ça, c'est aussi une autre dimension de son œuvre.
Il n'y a pas de vie heureuse chez Philip Roth parmi ses personnages.
Il y en a. Ben écoutez, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup.
Peut-être que le bonheur est antilittéraire.
Je crois. Peut-être que le bonheur est antilittéraire. Je vous renvoie aux familles heureuses qui n'ont pas d'histoire, comme disait Tolstoï. Oui, il y a guère de vie heureuse. Et même souvent les parents dans les familles qu'ils représentent, enfin la deuxième génération d'immigrants, les parents qui peuvent représenter pendant un certain temps une certaine image de bonheur familial, conjugal, enfin la sécurité enfin trouvée aux États-Unis, la famille qui sort un petit peu de sa misère initiale, eh bien ils ont à affronter le destin des enfants et en particulier des fils qui se conforment assez rarement à ce que les parents attendent de lui.
Ouais. Et c'est ça qui fracasse. Qu'est-ce qui fracasse la vie des personnages?
Toutes sortes de choses. J'ai envie de vous dire que l'histoire des personnages de Philip Roth, bien souvent, c'est l'histoire d'une relation très complexe et qui s'achève mal, comme on le disait, avec ce que Roth appelle dans un de ses plus beaux récits le patrimoine. Une chose frappe, je parlais de Balzac il y a un instant à propos des personnages, c'est vrai que c'est un romancier de personnages, de personnages, enfin au sens où il suit des biographies, des carrières, des vies. Une chose frappe, j'y ai pensé il n'y a pas longtemps, c'est autant le sexe est présent chez lui comme chez Balzac, le sexe coule à toutes les pages chez Balzac, autant il manque quelque chose qui est l'autre grand thème balzacien. C'est l'argent.
Il ne s'intéresse pas à l'argent.
Non, il y a pas d'argent. En tout cas,
les personnages sont souvent assez riches. Enfin, pas.
Ils peuvent l'être. Ils appartiennent à différents milieux, mais en tout cas, l'argent n'est pas le mobile comme il peut l'être chez Balzac. Et l'argent ne tient pas la place qu'il peut tenir, la réussite financière ne tient pas la place que l'argent tient en général dans les romanciers du rêve américain. On sait ce que ça veut dire, ce que ça implique. Mais il me semble que ce qui tient lieu d'argent chez Roth, c'est l'héritage, c'est le patrimoine, c'est ce que les parents, la famille, les ancêtres ont légué, et qui est le bien le plus précieux.
Ce sont les mêmes mots, l'héritage, le patrimoine.
Ah, mais oui, mais c'est dans un autre sens, c'est pas de l'argent au sens de monnaie sonnante et trébuchante, c'est quelque chose d'extraordinairement difficile à définir. Que les personnages vont rencontrer à un moment ou à un autre. C'est quelque chose qu'on leur lègue, que les familles, que les parents, que les ancêtres lèguent, et qui va constituer, d'une certaine façon, cet accident dont vous parliez tout à l'heure, à un moment ou à un autre, parce que bien souvent les personnages commencent par refuser cet héritage. Par exemple, bien des fils, dans les romans de Roth, refusent de se conformer à une certaine tradition, et qui est que, par exemple, on ne veut pas épouser une fille non-juive. Mmh. Or, tous les fils dans les familles de Philip Roth ne sont amoureux que de Shiksay, de jeunes femmes qui ne sont pas juives. C'est la première révolte commence là, la transgression du tabou. Tu n'épouseras pas une non-juive, mon fils. Eh ben, si. Et il commence par tomber amoureux de filles qui ne sont jamais des filles juives.
Donc, l'héritage, c'est l'héritage de la judéité.
C'est l'héritage de la judéité. Mais ça peut être aussi d'autres formes d'héritage. Ce qui est assez fascinant chez Roth, c'est que, cette idée que une vie peut être déterminée ou prédéterminé par un héritage dont on n'a pas nécessairement toujours très bien conscience. Cette idée-là est très forte chez Roth. De quoi hérite-t-on ? Sait-on de quoi on hérite ?
De
à quel moment
aussi
est-ce qu'on on trouve véritablement ce dont on hérite et quel sens on lui donne et qu'est-ce qu'on en fait ?
Il y a une part psychologique. Est-ce qu'on hérite des névroses de nos parents, de nos arrière-grands-parents ?
Oui, il y a bien sûr qu'il y a aussi, tout cet aspect-là. Alors, bon, ça, il me semble que c'est un thème très, 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 très puissant chez Roth, parce que cette notion d'héritage, en particulier, bien sûr, liée à la judéité, va se trouver impossible à mettre en accord avec le rêve d'américanité des personnages.
Est-ce que l'Amérique, c'est l'absence d'héritage ?
C'est pas ça, c'est que bien souvent, l'Amérique, telle que les personnages se la représentent, incarne des valeurs qui ne sont pas conformes à cette tradition juive, ou en tout cas qui ne s'accordent pas avec elle. Vous voyez par exemple dans Portnoy, puisque Portnoy figure dans le premier tome des œuvres de Roth, tout ce qui touche à la nourriture, toute la transgression du garçon qui s'empiffre de hamburgers, de frites, enfin de toutes sortes de choses que sa mère lui interdit absolument de manger. Donc le personnage découvre sa vie, même assez tôt, est déjà en partie limitée par un certain nombre d'éléments qui appartiennent à cette tradition. Difficile à nommer, parce que elle n'est pas vraiment, en tout cas ou pas exclusivement religieuse, elle est plutôt culturelle. Ce judaïsme américain, c'est un judaïsme plutôt culturel, qu'on dirait culturel, mais qui agit pour les personnages comme une limite insupportable à leur désir.
Alors, qu'est-ce qu'ils en font, ces personnages, de cette tension ? Est-ce qu'elle est résolue d'une manière ou d'une autre ? Ou est-ce que Philip Roth se contente finalement de poser la question et les personnages restent dans leur contradiction sans jamais pouvoir la résoudre ?
Oui, c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Les vies qu'ils mènent s'empêtrent de plus en plus. Alors, le premier exemple, évidemment, connu de beaucoup de lecteurs, c'est Portnoy. C'est Portnoy qui n'arrivera jamais à se libérer véritablement de ces chaînes qui se mettent en place très très tôt. La mère trop aimante et qui se mêle de sa vie intime, le père qui ne peut pas proposer une image, une possibilité d'identification pour le garçon, la fuite permanente. Alors évidemment, elle est grotesque, elle est bouffonne dans Portnoy, dans les toilettes, pour se livrer à son activité favorite. C'est intéressant, cette variation sur le mode farcesque du héros qui essaye d'échapper. La première fuite, d'une certaine façon, dans l'œuvre de Roth, c'est la fuite de la salle à manger aux toilettes.
What are we doing here?
sexe, c'est l'autre grand thème, et qui d'ailleurs, on vient de le comprendre, est lié au premier dont vous parlez, le sexe et l'héritage. Le sexe, c'est aussi une image du chaos, et il y a beaucoup de chaos chez Philippe Ross, que ce soit le chaos dans la société telle qu'il l'a décrit, et aussi évidemment le chaos personnel. Donc vous diriez ça, Philippe Jaworski, le sexe, le chaos, c'est l'autre grand pôle des personnages, des romans de Philippe Ross ?
Absolument. Alors, et par là, il se rattache, vous avez tout à fait raison, je crois, il se rattache à une tradition américaine qui est celle de la description du chaos. Je crois que la grande littérature américaine n'arrête pas de peindre un personnage en proie, en but à ce chaos environnant. Je veux dire, l'océan de Melville dans Moby Dick, c'est aussi un chaos, c'est une représentation du chaos. Le Mississippi de Mark Twain, c'est aussi un chaos. Ce sont des mondes que le personnage trouve dans un désordre absolu et à l'intérieur duquel il essaye de trouver une place, de réagir, mais évidemment il n'y a jamais de solution. Et lorsque la vie est un petit peu trop bien réglée, comme par exemple dans Pastorale américaine, où le personnage s'est programmé en quelque sorte son avenir, et là encore
à partir de sa fille aussi,
et l'avenir de sa fille, mais à partir d'une première transgression qui est d'épouser une fille non juive, puisqu'il épouse une Miss New Jersey et qu'il rêve de s'installer dans un paysage champêtre environné d'Americana, de reste de l'histoire américaine, la catastrophe arrive au moment où il apprend que sa fille a déposé une bombe qui a fait une victime.
Alors, le paysage champêtre, justement, c'est là où Philippe Ross a souhaité s'installer pour ces dernières années.
Je me définirais comme un écrivain qui vit dans la campagne de la Nouvelle-Angleterre. Je suis venu en 1972 et j'habite dans cette maison depuis 1972. De temps en temps, je vais ailleurs, et depuis 1973-74, en fait, j'y habite de façon permanente, mais je ne suis pas né dans cette splendeur rurale. Je suis né dans une ville industrielle, Newark, dans le New Jersey, qui est de l'autre côté du Hudson de New York. C'est une ville très très différente de New York. Et c'est comme ça que j'ai grandi dans les écoles de cette ville industrielle, dans les rues d'une ville industrielle. J'ai appris à parler, à jouer, à faire des plaisanteries. J'ai appris à me débrouiller dans une ville. Et puis, je ne savais pas ce qu'était la campagne. Je n'aurais pas pu donner le nom d'un arbre ou d'un oiseau. Et maintenant, oui, maintenant, je connais le nom d'un arbre, ce qui est un progrès. Je vous le reconnais. Non, j'ai fait des progrès. Cela étant, lorsque j'étais enfant, je n'avais aucune idée de ce que je serais en tant qu'adulte. Je ne me faisais pas d'idée là-dessus. Par contre, j'ai découvert la campagne américaine lorsque je suis allé au college, c'est-à-dire au début de l'université. J'étais en Pennsylvanie, dans un collège qui s'appelait Brocknow, qui est effectivement dans la campagne américaine. Et là, j'ai vu la vie de l'Amérique profonde, la vie de l'Amérique rurale, et j'ai vu la beauté de la campagne. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Je suis tombé amoureux de la nature. Et puis ensuite, je suis allé à Chicago pour faire mes études. Puis ensuite, je suis allé à Rome, à Londres. Et puis, j'ai vécu un peu partout.
Philippe Ross, interrogé ici par Alain Finkielkraut. Alors, il parlait évidemment de son trajet biographique depuis la ville de Newark, près de New York, ville industrielle, ville pauvre, jusqu'à la campagne où il se trouve visiblement très bien. C'est exactement le trajet du personnage du Suédois Lewoff dans La Pastorale américaine, né à Newark et qui, vous le disiez, Philippe Jaworski, essaie de vivre le rêve américain dans une petite ville rurale. Il y a là vraiment une correspondance qui est assez, assez nette.
Absolument. Alors, dans Pastorale américaine, Roth présente ce rêve du Suédois comme un retour à une sorte d'âge d'or, mais enfin complètement mythique de l'histoire américaine. C'est un rêve, enfin jeffersonien, de vie à la campagne, de vie dans un milieu entièrement pastoral, loin des villes, loin des industries, loin du commerce. Ouais. Et évidemment, les choses vont très très mal tourner puisque l'histoire violente va rattraper le personnage. Alors, ça, c'est un deuxième aspect de son œuvre. Il y en a un troisième qu'on pourrait également évoquer, qui me semble très important. J'y ai consacré une certaine place dans la préface. C'est que, en relisant toute l'œuvre, on ne peut pas ne pas être frappé par le fait que Roth a consacré, écoutez, je crois, une dizaine de livres, je ne sais plus, je crois que c'est une dizaine de livres, en totalité ou en partie, à une figure d'écrivain. Et que, d'une certaine façon, il y a là une entreprise d'exploration de ce que j'appellerais la folie de l'écriture, la folie de la fiction, qui est absolument unique.
C'est quoi,
dans la littérature, dans la littérature américaine. Le seul équivalent que j'ai pu trouver pour donner une petite idée de la chose au lecteur, c'est la recherche du temps perdu, c'est la recherche proustienne. Mais enfin là, c'est tout de même une entreprise absolument passionnante que de s'enfoncer peu à peu, parce que le personnage de Zuckerman, je fais évidemment allusion au personnage de Nathan Zuckerman, auquel il a consacré une trilogie qui est en fait une tétralogie à quatre romans, mais le personnage de Nathan Zuckerman, de l'écrivain, il apparaît beaucoup plus tôt dans Ma vie d'homme. Donc c'est un et puis il a une importance croissante et on le retrouve dans la trilogie américaine avec une place qui n'est plus tout à fait centrale en ce sens que ce n'est pas vraiment le protagoniste, mais il est là pour aider à un certain moment les personnages à raconter leur vie, à mettre du sens, à trouver du sens à ce qui leur arrive. Donc ce personnage d'écrivain, cette figure d'écrivain est absolument essentielle dans son œuvre.
Donc ce que vous nous dites, c'est qu'il y a fusion, confusion entre Philip Roth, l'écrivain, et ses personnages, et en particulier entre Philip Roth et le personnage de Zuckerman. Et il faut que vous reveniez aussi sur cette idée de la folie de l'écriture. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ?
Alors qu'est-ce que c'est que la folie de l'écriture ? C'est, je crois que peut-être à cause de l'accueil fait à Portnoy, et du procès qui lui a été fait à ce moment-là, et puis plus tard aussi à l'occasion d'autres livres, enfin surtout à la sortie de Portnoy, de régler ses comptes avec son histoire personnelle, d'utiliser son histoire personnelle ou l'histoire de la communauté à laquelle il appartient, de sa tribu si vous voulez, pour en faire de la fiction, est née l'idée d'une enquête très approfondie sur qu'est-ce que c'est qu'un écrivain. Et que veut dire écrire de la fiction ? Et Roth est allé très loin, me semble-t-il, dans sa réflexion, puisque, au fond, j'aurais tendance à dire, en résumant un petit peu les choses, que se vouer à la fiction, se vouer à l'écriture et à l'écriture de fiction, c'est prendre le risque de devenir fiction à son tour. Il n'y a plus d'autobiographie de ce point de vue-là. Et ce n'est pas un hasard si, évidemment, dans le texte qui s'appelle « Les faits », qu'il a sous-titré une autobiographie, il commence par me dire « Je vais vous raconter pour de vrai un certain nombre d'épisodes de ma vie ». Et puis qu'il fait intervenir tout à fait à la fin son personnage de Zuckerman, personnage alors lui tout à fait fictif, qui va lui reprocher de ne pas avoir dit la vérité. C'est-à-dire, à un certain moment, l'écrivain ne s'appartient plus. Mmh. Il est fiction, sa vie est fiction, quoi qu'il fasse. Et la frontière entre vie privée, vie publique, sa vie personnelle, la vie de ses personnages, cette frontière ne cesse de se brouiller et de disparaître en permanence. D'où que, dans l'opération Shylock, il puisse apparaître comme personnage de fiction sous le nom de Philip Roth.
Mais c'est une réflexion que vont développer un certain nombre d'écrivains, beaucoup d'écrivains, de grands écrivains. Quelle serait la spécificité, selon vous, de cette réflexion chez Philippe Ross, Philippe Jaworski?
Oh, c'est vrai, vous avez raison, il n'est pas le premier à faire ce qu'on a pu appeler une espèce de métafiction. Je crois simplement que dans le cas de Roth, l'enquête, la réflexion est menée sur une très très grande échelle et, comment dire, de manière au fond très très méthodique. Il suit d'une certaine façon tout le processus de la création du début à la fin, avec la manière dont la vocation émerge, surgit, s'affirme, par exemple dans l'écrivain des ombres, The Ghostwriter. Il regarde de près ce qui se passe lorsque l'écrivain devient un homme public, lorsqu'il ne s'appartient plus, lorsque tout le monde estime avoir un droit de regard sur ce qu'il est, sur ce qu'il fait, etc. Il me semble qu'il y a là quelque chose qui est assez exceptionnel par son caractère à la fois méthodique et par le fait que, comment dire, ce regard de l'écrivain sur lui-même est toujours merveilleusement narratif. Ce n'est jamais une enquête intellectuelle. Mmh. C'est par le biais d'histoires, de récits de vie.
Il descend l'échelle de l'abstraction.
Cela. Oui. Mmh. Oui.
Je vous propose d'écouter justement ce que Philippe Ross disait à François Bunel à propos de Nathan Zuckerman, qui est donc, comme on vient de le voir, l'un de ses doubles.
Pour quelle raison avez-vous chargé ce pauvre Nathan Zuckerman de tous ces maux ?
Je l'avais affligé de tous ces maux déjà avant Pastorale américaine. Plusieurs de mes amis se sont retrouvés avec un cancer de la prostate. C'était une véritable épidémie. Et je me suis dit, c'est bien de mon temps, ce sont des maladies de mon temps. Et je me suis dit qu'il fallait que Zuckerman connaisse ceci, un des symboles de notre temps, et qui punit terriblement les hommes. Quand j'écrivais le livre, je voyais quelles seraient les conséquences. Et je voyais les conséquences que ça aurait pour moi aussi. Je l'ai sorti du jeu sexuel. Je l'ai retiré du marché sexuel. Et ça a été positif aussi. Positif pour moi. Je tenais ce dont j'avais besoin.
Juste avant de parler du retour de Nathan Zuckerman à New York et de la manière dont New York le transforme, pourriez-vous nous expliquer pour quelle raison il a décidé de quitter New York 11 ans plus tôt, juste avant de découvrir qu'il était atteint d'un cancer, quitter New York donc pour une ferme à la campagne dans les Berkshires où Melville et Nathanael Hawthorne vécurent autrefois.
Ce qu'il découvre dans les Berkshires, c'est qu'il peut échapper à la douleur. À la douleur du monde dans lequel il vit, la douleur de son corps. Et donc il va là-bas et il reste là-bas, parce qu'il se sent en accord avec cette vie solitaire.
Compagnie des auteurs sur France Culture. Alors, vous le disiez à l'instant, Philippe Jaworski, les limites sont floues entre la fiction et le réel. Est-ce que le réel existe encore dans la vie de Philippe Ross? C'est une question qu'on peut se poser. Et ce personnage de Nathan Zuckerman, comme d'ailleurs beaucoup d'autres chez lui, font penser qu'il a tenu la chronique distanciée de sa vie à travers ses romans durant toute sa vie. Est-ce que c'est votre sentiment aussi?
Oui, en même temps, je suis assez sur ce thème-là. J'aurais tendance à reprendre à mon compte la formule de Deleuze. On n'écrit pas pour se raconter, mais pour devenir autre chose. Et ça, c'est l'histoire des contre-vies aussi. Hein. La contre-vie, c'est aussi un petit peu ça. Bien sûr que Roth exploite le matériau qu'il connaît le mieux, mais ça c'est le propre de tous les écrivains. L'écrivain prend ce qu'il a sous la main. Alors, il y a ceux qui vont davantage puiser dans leur vie personnelle, dans leur biographie, ceux qui puisent un peu plus dans le milieu environnant, comme un Faulkner qui va davantage s'intéresser à ce qui est autour de lui, plutôt qu'à sa vie personnelle. Mais le matériau, bien sûr, il est toujours tout de même lié aux expériences personnelles, subjectives, émotionnelles, intellectuelles de l'écrivain. Donc c'est vrai qu'il y a une sorte de, peut-être de chronique de lui-même, sauf que, comment dire, il se confronte en permanence, il veut se confronter en permanence à des situations dans lesquelles il va toujours pouvoir devenir autre chose et faire autre chose. C'est-à-dire, il y a tout de même ce fantasme de la fuite, du désir de fuite de toute situation qui est un tant soit peu contraignante pour le personnage. Les personnages de Roth sont des personnages qui ne supportent pas, d'une certaine façon, la contrainte. Et je crois que si Roth s'est à ce point découvert dans Portnoy, c'est parce que, justement, il a pu mettre en scène un désir dans toute sa puissance transgressive. Et au fond, il ne parle que du désir, tout le temps. C'est toujours le désir. Et le désir...
C'est le désir sexuel d'abord.
Le désir sexuel d'abord. C'est le désir sous sa forme la plus forte, la plus violente, la plus irrépressible.
Ouais.
C'est vraiment la pulsion, l'incontrôlable,
est-ce
total,
qu'il
ne supporte aucune espèce
est-ce
de contrainte.
Est-ce qu'il considère que ces personnages pétris de pulsion, finalement, ne doivent pas être regardés avec un jugement négatif? Parce que la question de la pulsion, elle est très présente, précisément en ce moment, dans nos sociétés. D'ailleurs, Philip Ross n'est pas considéré comme un écrivain féministe, bien au contraire. On peut discuter d'ailleurs de ce thème-là. Est-ce qu'il justifie finalement, est-ce qu'il excuse par la pulsion un certain nombre de comportements, un certain nombre de regards, par exemple, des hommes sur les femmes?
Non, il n'excuse pas. Je crois qu'il il met comme... je crois que c'est dans la tâche que l'idée est exposée, enfin, dans la tâche, et puis dans... je crois aussi dans la bête qui meurt, l'idée que la pulsion sexuelle, l'instinct sexuel, est au fond à l'origine de quantité de tragédies. Alors, on est dans des contextes qui sont un peu différents de celui de Portnoy. Quand on avance dans l'œuvre, en particulier à partir de la trilogie américaine, on entre dans une période des grandes tragédies. Les références sont à Shakespeare, sont à la tragédie antique, etc. Mais ces références, par exemple, à la guerre de Troie, il y a toujours une femme à l'origine de tout ça. Il y a toujours un désir, et qui est un désir sexuel. Et voilà, c'est une donnée fondamentale, d'une certaine façon.
Et d'ailleurs, c'est sur le sexe qu'on attaque le personnage de la tâche. C'est la honte qu'on cherche à faire peser sur lui, qui est d'origine sexuelle.
Absolument. Alors là, il y a un travail d'analyse que je trouve très 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 beau, très fort, sur les différents aspects du puritanisme américain. Alors les lecteurs du roman américain n'auront pas de mal à reconnaître un petit peu là cette polarité entre le goût de la transgression et puis la tendance au conformisme et le caractère toujours et presque nécessairement explosif du désir dès lors que il veut se satisfaire. C'est-à-dire il y a trop de contraintes, trop de conformisme, il y a un poids qui est beaucoup trop pesant sur les personnages pour que lorsque le désir s'exprime, il ne soit pas toujours nécessairement à l'origine d'une tragédie.
Donc la pulsion, finalement, elle existe d'autant plus que la société est puritaine. C'est un petit peu ce que
nous dit
Philip
Ross. Oui, absolument. Je crois que c'est ce qu'il veut dire, oui. Yeah.
C'est que je n'ai pour ma part pas de moi, et que je ne veux pas ou que je ne peux pas m'infliger à moi-même la plaisanterie d'un moi. Ce dont je dispose au contraire, c'est d'une variété d'incarnations auxquelles je puis m'adonner, une troupe d'acteurs que j'ai intériorisée, une compagnie permanente d'acteurs que je peux convoquer chaque fois qu'il me faut un moi, un stock à jamais changeant de pièces et de rôles qui continue mon répertoire. Je n'ai sûrement pas de moi indépendant de mon effort artistique pour en usurper un, et je ne voudrais pas non plus. Je suis un théâtre, je ne suis rien d'autre qu'un théâtre. Alors, très drôle, parce qu'on pourrait penser que Philippe Roth écrit sur lui, il dit non, je fais semblant d'être quelqu'un, mais tout le monde fait semblant d'être quelqu'un. Mais c'est très drôle, les efforts prodigieux qu'on fait pour ressembler à un être humain. Évidemment qu'on n'est pas des... on est des bouts de trucs.
On est des bouts de trucs, Philippe Jaworski. Vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, on est des bouts de trucs.
C'était Arnaud Desplechin qui en
parlait. Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment ça. La vie, c'est un chaos, c'est des miettes, et l'identité, c'est aussi un petit peu ça.
Mais la conclusion, c'est quoi ? C'est une conclusion nihiliste, du coup ? Ou au contraire, on a beau être des bouts de trucs, il faut essayer de faire quelque chose pour le bien commun, il faut essayer de changer le monde. Quelle est la conclusion qu'on apporte à ça ?
Ah, la conclusion, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait un message moral de ce type-là chez Philip Roth. Il y a un constat. Il y a une grandeur des personnages qui affrontent avec les moyens qu'ils ont, les moyens du bord, les catastrophes qui leur arrivent. Beaucoup de personnages sont un peu des figures de Job, des avatars de Job. Pourquoi ces malheurs me sont tombés sur la tête ? Pourquoi ça m'arrive à moi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Et on n'en sait rien. Et le monde est comme ça. Et il n'y a pas d'explication. Ça aussi, c'est une des grandes leçons un des grands thèmes de Roth. On ne peut pas expliquer ce qui vous arrive. La vie est chaotique et c'est ainsi. Alors, les personnages là-dedans, ils se débrouillent comme ils peuvent. Ils bricolent comme ils peuvent.
C'est une vision par l'individu de la société. C'est pas une vision du tout structuraliste.
Non, c'est une vision par l'individu. C'est son point de vue.
Et du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est une vision de droite ?
Une vision de droite. Je parlais tout à l'heure je soulignais tout à l'heure que ces grands romans sont au fond des biographies. C'est le monde vu par le personnage. Alors, je crois que cette manière de dire les choses, on peut difficilement la caractériser comme une vision de droite ou de gauche. Il reste que dans le chaos que nous avons évoqué à plusieurs reprises, les personnages n'ont guère qu'à certains moments le choix du recours à tout de même certaines valeurs. Alors, est-ce de droite, est-ce de gauche ? Je n'en sais rien.
Qui seraient ces valeurs-là ?
Qui serait le courage personnel ? Qui serait, prenez le personnage, un des personnages les plus cyniques, affrontant le chaos le plus extravagant de toute l'œuvre de Philip Roth, Mickey Sabbath. Mickey fait un pèlerinage, c'est l'histoire du roman, hein, fait un pèlerinage vers les morts, vers la femme qu'il a adorée, avec laquelle il se livrait à des ébats absolument érotiques, absolument invraisemblables. C'est un retour vers la famille aussi, parce que c'est un retour vers le souvenir de son frère mort à la guerre. Tragédie qui a d'une certaine façon provoqué son départ à l'autre bout du monde. Il a coupé à ce moment-là avec sa famille. Et il y a dans le destin de Mickey Sabbath, je crois, un peu un résumé, une sorte de réponse à la question que vous posiez, en dépit du caractère très profondément nihiliste du personnage, qui ne croit à rien du tout. Tout au long du roman, si, finalement, il y a un certain nombre d'attaches, il y a des racines, il y a ne serait-ce que ce retour à quelque chose. Je veux dire, il aurait pu en finir tout de suite, non. Et il faut qu'il fasse ce pèlerinage, qu'il retraverse en quelque sorte l'histoire de sa vie, qu'il revienne vers ces fantômes, ces personnages que j'appelle ces fantômes qui sont toujours là. Et les fantômes, chez Philip Schroff, sont des figures ambiguës, ambivalentes, à double sens. Ils hantent les personnages, ce sont des absences, mais aussi ce sont des présences qui vous rattachent à quelque chose quand même. Et il n'y a peut-être guère que ça qui va rester.
C'est les fantômes qui comptent alors.
Ce sont les fantômes qui comptent. Regardez le dernier roman publié par Philip Schroff, Némésis, avec ce personnage qui le copain du héros, du protagoniste, qui va se souvenir avec beaucoup d'émotion d'une scène au cours de laquelle le protagoniste, justement, montrait à tous ces jeunes comment faire du sport et comment lancer le javelot. Et une image absolument magnifique. Il était invincible. Et quand il montrait, il s'élançait avec son javelot à main, il était invincible. Ce personnage à qui il est arrivé une tragédie affreuse, qui se sent torturé de remords, qui a l'impression qu'il est coupable. Il reste le souvenir de ce personnage. C'est pas rien.
Le fantôme, les fantômes, c'est l'histoire aussi. Quelle est la place de l'histoire dans les romans de Philip Roth, qui n'est pas un historien à proprement parler, mais l'histoire est souvent, d'ailleurs, l'histoire en train de se faire, c'est-à-dire l'actualité d'une certaine façon, c'est toujours présent dans ces romans.
Bien sûr, l'histoire est toujours présente. Elle est doublée en quelque sorte par une réalité fantomatique, si je puis dire, ou spectrale. C'est une des grandes leçons que Roth a tirées de James, mais elle est présente dès le début du cycle de Zuckerman, The Ghostwriter. Ça s'appelle The Ghostwriter. C'est difficile à traduire en français parce que The Ghostwriter, c'est le nègre en littérature. C'est celui qui écrit le livre en sous-main et qui ne va pas signer. Donc, vous voyez, tout de suite, la littérature est placée sous le signe de il y a un fantôme qui est là. Il y a quelqu'un derrière l'écrivain. Il y a déjà une présence fantomatique, et ça ne va pas cesser de hanter de toute l'œuvre de Roth. Patrimoine, il ne faut rien oublier à la fin de Patrimoine. Qu'est-ce que j'ai reçu en héritage? Il faut rien oublier.
Il faut
tout mentionner. Oui.
Et puis les grands moments aussi l'histoire mondiale.
Bien sûr.
La Shoah, la Seconde Guerre mondiale, la guerre du Vietnam, le communisme aussi. Je vous propose d'écouter à ce propos, et puis vous le commenterez ensuite, un extrait du complot contre l'Amérique.
La colère de cette nuit-là est une vraie forge rugissante, un haut fourneau qui vous happe et vous tord comme de l'acier. Et elle ne va pas retomber tant s'en faut lorsque Lindbergh, monté en silence à la tribune de Philadelphie, sentant à nouveau ovationné en sauveur de la nation, ni lorsqu'il fait son discours d'investiture, acceptant du même coup la mission de maintenir l'Amérique hors du conflit européen. Nous attendions tous avec terreur qu'il répète à la Convention ses calomnies perfides sur les Juifs. Mais s'il n'en fait rien, cela ne remonte pas pour autant le moral des familles du voisinage qui sortent toutes sans exception dans la rue à 5 heures du matin. Des familles entières, que je n'ai jusque-là connu que 2 jours, tout habillés, et que je vois subitement en pyjama et chemise de nuit sous leur peignoir de bain, en train de se répandre dans la rue en pantoufles, comme chassés de chez elles par un tremblement de terre. Mais le choc le plus grand pour l'enfant que je suis, c'est la colère. La colère de ces hommes que je connais comme de joyeux forts en gueule, ou des hommes de devoir taciturne, qui font bouillir la marmite, qui passent leur journée à déboucher des tuyauteries, réparer des chaudières ou vendre des pommes au kilo, pour rentrer le soir lire le journal et s'endormir dans le fauteuil du salon, des gens bien ordinaires, juifs par hasard, en train de vituperer dans la rue et de dire des gros mots au mépris des convenances, brutalement renvoyés qu'ils sont au misérable combat dont ils croyaient leur famille libérée par l'émigration providentielle de la génération précédente. Le fait que Lindbergh n'ait pas parlé des juifs dans son discours d'investiture pouvait être de bon augure, me disais-je. Signe qu'il avait été rappelé à l'ordre par le tollé qu'il avait contraint à abandonner son poste dans l'armée, ou bien qu'il avait changé d'avis depuis le discours de Des Moines, voire qu'il nous avait déjà oubliés, ou enfin qu'en son fort intérieur, il savait fort bien que notre sort était indissociable de celui de l'Amérique, car si les Irlandais demeuraient attachés à l'Irlande, les Polonais à la Pologne et les Italiens à l'Italie, nous n'avions conservé aucun lien, sentimental ou autre, avec les pays du vieux monde où nous n'avions jamais été bien accueillis et n'avions nulle intention de retourner jamais. Si j'avais pu formuler explicitement ce que ce moment signifiait, voilà sans doute ce que j'aurais dit. Mais les hommes descendus dans la rue tenaient un autre raisonnement. Pour eux, le fait que Lindbergh n'ait pas parlé des Juifs s'inscrivait dans une campagne de perfidie destinée à nous faire taire pour mieux nous prendre par surprise. « Hitler en Amérique !» criaient nos voisins. « Le fascisme en Amérique, des SS en Amérique !»
Compagnie des auteurs sur France Culture. Que retenez-vous, Philippe Jaworski, de cet extrait du complot contre l'Amérique de Philip Ross?
Oh, c'est un livre extraordinaire. Alors voilà le retour des fantômes. L'histoire revient aux États-Unis cette fois. Lindbergh est élu président de la République. Lindbergh, antisémite notoire, et s'installe à la tête du pays. Une sorte de nazi, enfin Hitler en Amérique, comme il est dit, retour de l'histoire. On est là vraiment dans, vous voyez, et ça aussi ça fait partie de l'héritage. C'est-à-dire il y a cette manière qu'a Roth de montrer toute la complexité de la condition du juif américain. Dans le complot contre l'Amérique, l'idée, c'est que il n'est pas certain même que la démocratie américaine dont rêvent tant les personnages suffise à contenir une horreur pareille. Ça pourrait arriver, ça pourrait revenir sur les territoires américains.
Alors si Ross avait continué à écrire, puisqu'on sait qu'il s'est arrêté d'écrire, on imagine qu'il aurait injecté dans ses romans la politique américaine actuelle, c'est-à-dire l'arrivée de Donald Trump. On a beaucoup parlé au moment, justement, c'était il y a un peu plus d'un an, de l'arrivée au pouvoir du nouveau président américain. On a beaucoup parlé de ce livre, Le complot contre l'Amérique, comme s'il y avait une sorte de préscience, en exagérant évidemment un petit peu, de Philip Ross sur l'arrivée comme ça d'une espèce de chef un peu populiste. Est-ce que aujourd'hui, si encore une fois il est encore quelqu'un qui écrit, vous pensez qu'il se serait saisi de la figure de Donald Trump?
Écoutez, c'est difficile à dire au point où on est arrivé un petit peu sa carrière. On pourrait dire que d'une certaine façon, il a déjà écrit son livre sur Trump. C'est son livre sur Nixon, qui ne figure pas dans le volume de la Pléiade, mais qui est une farce. Et où il montre finalement en Tricard Dixon et ses copains, c'est le titre de la traduction française, il montre en Nixon un bouffon, un menteur, un personnage d'une vulgarité, d'une grossièreté absolument extraordinaire. C'est déjà une sorte de préfiguration clownesque de Donald Trump. Ouais.
D'ailleurs, le clownesque, c'est un mot important. Hein.
Ah oui, absolument essentiel. C'est absolument essentiel. Je serais presque tenté de dire qu'au fond, une des grandes originalités de Philip Roth, c'est d'avoir introduit dans le roman américain le tragique bouffon. C'est un grand romancier de la bouffonnerie de la vie. La vie est une bouffonnerie à prendre au sens shakespearien.
Ça fait pas tellement rire, cette bouffonnerie-là.
Non, elle ne fait pas nécessairement toujours rire. Il y a un éventail, il y a une palette du comique qui est très très large chez Roth. Mais le bouffon auquel je pense, en effet, c'est plutôt un comique grinçant, noir, parfois un peu swiftien même, mais qui montre simplement que la vie est tellement chaotique et absurde qu'on ne peut pas ne pas, à un certain moment, éclater de rire. Ça ne veut pas dire que c'est drôle. Ça veut dire qu'on n'a plus d'autres réactions n'est possible en face de tant d'absurdité, de tant de non-sens.
Comment est-il vu aux États-Unis aujourd'hui, Philip Roth? Parce que en France, on le célèbre plus ou moins. Alors, il y a évidemment toutes ces polémiques dont on a un petit peu parlé, notamment les accusations qu'on a évoquées de la part des femmes en particulier, d'être antiféministes. Et puis, bon, il y a aussi le côté un petit peu sulfureux des personnes qui se réclament comme étant contre le politiquement correct. Aux États-Unis, comment ça se passe? Comment le voit-on?
Oh ben c'est beaucoup plus complexe qu'en France, d'une certaine façon, pour une raison assez simple, c'est que le statut de l'œuvre littéraire n'est pas tout à fait le même. La littérature aux États-Unis est quand même placée sous les projecteurs d'un ensemble idéologique et culturel assez complexe. À l'intérieur duquel se font entendre des voix qui sont celles de la société américaine, les voix des femmes, les voix des féministes, les voix de ceci, de cela, de tel groupe, de telle minorité, etc. Et donc l'écrivain américain est davantage perçu sous l'angle de sa capacité à refléter l'état d'une culture qui est constamment en mouvement et qui avance souvent à coup de mots d'ordre à l'université, dans la presse, etc. Donc Roth est évidemment beaucoup plus exposé aux critiques de cet ordre-là, sa représentation de la femme, sa représentation des Noirs.
Donc il est plus consensuel en Europe et plus consensuel en France que dans son propre pays.
Sûrement, parce que il n'y a pas, Dieu merci, encore, j'espère, en France, ce poids du politiquement correct qui est écrasant aux États-Unis, parce que il est représenté par le monde universitaire, par les médias. C'est très très pesant de ce point de vue-là, et on a tendance, me semble-t-il, en France et ailleurs en Europe sûrement aussi, à appréhender les œuvres littéraires comme des œuvres littéraires et non pas comme des productions culturelles qui doivent se soumettre à un certain nombre d'impératifs plus ou moins idéologiques. Vous voyez ce que je veux dire. Donc la perception de Roth est évidemment différente et on ne s'est pas privé de lui dire tout le bien qu'on pouvait penser de sa représentation des femmes, des Noirs, ou même des Juifs. Enfin, Dieu sait que la communauté juive s'y est mise aussi. Il ne plaît pas à beaucoup de gens. Il ne plaît pas à beaucoup de gens.
Il représente l'homme blanc qui a réussi.
Absolument. C'est l'homme blanc avec tous ses préjugés, misogynes. Il est vrai qu'il a évoqué dans plusieurs de ses romans, par exemple, l'évolution de sa ville natale, des quartiers qu'il a bien connus dans son enfance, de New York, la manière dont les quartiers juifs se sont transformés en quartiers presque exclusivement peuplés de Noirs, les Juifs accédant à un niveau de vie un peu plus aisé, confortable, migrant ailleurs, remplacés par les Noirs et les émeutes noires ensuite, etc. Alors on lui a reproché cette vision qu'on trouve assez passéiste, assez conservatrice des choses. Bon, je ne sais pas ce que l'histoire retiendra, l'avenir retiendra de tout ça. Il reste que sa littérature, me semble-t-il, n'est pas toujours lue comme elle devrait l'être aux États-Unis à cause de ce poids, encore une fois, de l'idéologie.
Voilà pour cette rediffusion d'une émission de décembre dernier consacrée à Philip Roth afin de saluer cet écrivain qui vient donc de disparaître. Je rappelle que Philippe Jaworski, mon invité, est l'auteur de la préface du premier volume de la Pléiade paru le 5 octobre dernier. On y retrouve une sélection des romans et nouvelles de Philip Roth des années 1959-1977. On continue de parler de Roth aujourd'hui sur France Culture et notamment dans la dispute d'Arnaud Laporte qui lui consacre toute son émission avec Elisabeth Philippe Delops, Florent Georgesco du Monde, Lazare Bitoun de Paris 8 et l'écrivain Steven Samson. Je signale enfin que Roth est à la une du site de France Culture où vous pouvez retrouver tous les contenus le concernant.
Demain, nous reprenons le cours normal de notre série sur Simone de Beauvoir. Nous parlerons de son féminisme. Ce sera avec la philosophe Geneviève Fraisse et avec l'universitaire Sylvie Chaperon. Mais tout de suite, vous retrouvez la poésie et c'est avec Jacques Bonnafé.
Bonjour, bonjour la compagnie. Puisque nous en étions hier à l'enjambement, passons sans plus attendre à l'amour. Grâce aux 100 mots de la poésie collection Que sais-je, une excellente réflexion de Jean-Michel Maulpoix dont on peut lire la revue en ligne Le Nouveau Recueil. L'amour est pour la poésie beaucoup plus qu'un thème parmi d'autres. Initiation à la beauté, code moral, principe de l'inspiration, répertoire de formes variées, accélérateur d'émotions, générateur d'états affectifs et variateur d'intensité psychique, il fait jouer tous les ressorts de la parole lyrique. Au point que se confondent l'amour, la poésie, pour reprendre un titre fameux de Paul Éluard, ou que la poésie a pu être parfois définie comme un travail d'amour. Mathieu Bénézé. Voici ma tâche d'été terminée, Marie, et je reviens vers toi, le séjour de mon cœur, comme à sa reine un chevalier vainqueur apporte du pays de féerie de splendides trophées pour son dôme enchanté. Dédicace à Marie Shelley du poète Percy Shelley. Avant que mon renom ne brille, astre entre les astres d'une nuit mortelle, s'il peut percer l'obscurité natale, accepte sa promesse incertaine que je voudrais unir à ton nom bien-aimé, enfant d'amour et de lumière. Restons avec la famille Shelley, l'inoubliable jeune autrice du Prométhée moderne Frankenstein. Nous les connaissons bien puisqu'avec Jeanne Balibar, nous l'interprétons au théâtre dans La Fabrique des monstres mise en scène par Jean-François Perret. Voici, pour la rubrique Lyrisme, un aperçu du Mont-Blanc. Les champs et les forêts, les lacs et les cours d'eau, l'océan, tous les êtres vivants qui habitent cette terre dédaléenne, l'éclair, la pluie, l'éruption et son torrent de feu, la tempête, la torpeur de l'année, lorsque d'un puissant rêve visite les bourgeons cachés, ou qu'un sommeil sans rêve endort feuilles et fleurs futures, l'élan qui a leur léthargie détestée les arrache, les travaux et les mœurs de l'homme, leur origine, leur fin, ce qui advient de lui et de ses œuvres, oui, tout ce qui se meut, respire avec effort et bruit, tout naît et meurt, tout évolue, s'enfle et décroît. La puissance, isolée dans sa tranquillité, vit lointaine et sereine, toujours inaccessible. Et ceci, la face dénudée de la terre que je contemple, ces montagnes des premiers temps instruisent l'esprit attentif. Les glaciers rampent, serpents guettant leur proie, de leur source lointaine progressant lentement. Là, le gel, le soleil, défiant tout pouvoir humain, ont entassé plus d'un escarpement. Dômes, pyramides, pinacles, cités de mort qui s'ornent de nombreuses tours et d'imprenables murs de glace étincelantes, pointant une cité cependant qu'un déluge de ruines qui déverse des frontières du ciel, son flot perpétuel. Des pins immenses jonchent la voie tracée, ou bien sur le sol ravagé se dressent ébranchés et brisés. Les rocs croulant depuis ce lointain désert ont bouleversé les bornes entre le monde mort et le monde vivant, à jamais confondu.
Merci Jacques Bonnafé pour ces lectures de Jean Rista et Jean-Michel Maulpoix.